De Banque Atlantique, l'appli mobile totalement gratuite et enrichie de nouvelles fonctionnalités vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Pot de vin, chantage, pression, appât du gain, comment lutter contre la corruption? Au Bénin, le président Patrice Talon a décidé la semaine dernière de mettre en place un guichet où les citoyens pourront porter plainte et dénoncer des faits de corruption. Croyez-vous en l'efficacité d'un tel dispositif? Ou craignez-vous qu'il ne pousse à la délation? Comment doit être composée cette cellule anticorruption? Pourra-t-elle être indépendante par rapport au pouvoir? Aimeriez-vous que votre pays suive l'exemple du Bénin? Vous pouvez encore nous appeler au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme chaque jour, vos questions à la rédaction de RFI. Connaîtra-t-on un jour toute la vérité sur l'assassinat en janvier 1961 de Patrice Lumumba et quelle a été la responsabilité de la Belgique dans l'exécution du Premier ministre congolais? Dernier épisode de cet interminable feuilleton judiciaire, la justice belge veut désormais obtenir les documents secrets de la commission d'enquête parlementaire menée il y a 20 ans. Tim, bonjour.
Bonjour Chantal Leroux.
Vous nous appelez de Kinshasa, oui. En RDC. En ligne avec nous, Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de RFI à Bruxelles. Tim, vous avez la parole, on vous écoute.
Exactement. Les parquets belges ont mené une perquisition au Parlement en lien avec l'enquête sur la mort de Patrice Emery Lumumba. Alors, j'ai des préoccupations. La première, pourquoi le parquet a-t-il estimé nécessaire de mener cette perquisition? Cela signifie-t-il que l'enquête menée il y a 20 ans par la justice belge était incomplète?
Alors, Pierre Benazet, pourquoi cette perquisition qui a été menée le 18 janvier dernier au Parlement belge?
Ben, c'est effectivement une bonne question. Est-ce que l'enquête était incomplète? Il y a eu, c'est à ça que Tim fait référence, il y a eu une commission d'enquête parlementaire, effectivement. Elle a duré 18 mois. On sait que ça a fait 88 heures de réunion, très précisément. Et c'était entre 2000 et 2001. On a reproché aussi un peu à cette époque aux Belges d'avoir fait cette commission d'enquête à huis clos. Mais certains affirment que le fait que cette commission d'enquête parlementaire, il y a 20 ans, se soit tenue à huis clos à la Chambre des représentants, a permis d'avoir des témoignages de personnes qui sont venues témoigner en se disant que comme c'était à huis clos, leur témoignage resterait confidentiel. Et la commission d'enquête parlementaire, on s'en souvient, a conclu à une responsabilité morale pour la Belgique et pour certains responsables belges en particulier. Et c'est ça que la justice veut avoir aujourd'hui. On sait qu'il y a eu cette plainte déposée par les descendants de Patrice Lumumba en 2011. Une plainte qui a eu un vrai avenir puisque dès l'année suivante, une cour d'appel a jugé qu'elle était recevable et qu'elle constituait surtout un crime de guerre. Ce qui veut dire que ce n'est pas prescriptible. On peut continuer à juger. Les 10 personnes qui sont dans la plainte, 8 sont mortes, mais 2 sont encore vivantes. Et donc, la justice continue. Et la juge d'instruction qui a été désignée, on le sait, a prévu de clore l'instruction en 2022, donc cette année. Et ça faisait plusieurs mois qu'elle réclamait les documents confidentiels de cette commission d'enquête parlementaire. Et c'est... négociations avec la Chambre des représentants n'avaient pas véritablement abouti. On sait que c'était un peu tendu. Et c'est pour ça que la juge d'instruction est allée elle-même, c'était mardi dernier, on l'a appris 3 jours plus tard, elle est allée elle-même à la Chambre des représentants réclamer ces 200 classeurs qui constituent les minutes, les enregistrements, tous les documents qui sont présents dans cette commission d'enquête parlementaire. Et effectivement, l'enquête était incomplète, comme le dit Tim, parce que les documents n'ont pas été publiés. Et on a encore des questions pour savoir s'il y avait très spécifiquement ce qu'on pourrait appeler une chaîne de commandement directe qui partait de Bruxelles à l'époque, du gouvernement. On sait que le ministre des Affaires étrangères à l'époque avait dit qu'il fallait éliminer définitivement Patrice Lumumba. Il y avait encore beaucoup de conseillers belges qui étaient présents à Lubumbashi, au Katanga, qui était à l'époque en CC. Et on pense qu'il y a pu y avoir des ordres directs qui ont été donnés de Bruxelles vers ses conseillers belges.
Tim, vous avez une autre question pour Pierre Benazet.
Oui, étant donné que le chef de l'État avait promis les rapatriements de la dent de Patrice Emery Lumumba, est-ce que cette perquisition plutôt peut-il ralentir à nouveau le retour de la dent?
Pierre Benazza, il faut rappeler que cette dent qui se trouve actuellement entre les mains de la justice belge avait été saisie chez la fille d'un policier belge qui avait aidé à faire disparaître le corps jamais retrouvé de Patrice Lumumba.
Oui, effectivement. Gérard Soute, qui est mort depuis, cette dent a été retrouvée chez lui, une perquisition. Enfin, chez lui, il était mort, mais c'était chez sa fille, donc. La perquisition a été effectuée. La dent doit retourner au Congo. C'est une promesse désormais officielle de la Belgique. Ça a été accepté par la justice. Elle aurait dû revenir le 30 juin dernier pour le 60e anniversaire de l'indépendance, le 61e. Ça sera finalement que le 30 juin prochain. A priori, il y a eu deux report, ça aurait dû être en janvier, puis finalement un nouveau report. On sait que les autorités belges et les autorités congolaises veulent faire de ce retour une grande cérémonie qui doit y avoir probablement la présence du roi des Belges. Et l'organisation semble un peu compliquée. On dit un peu que au carrefour de l'échangeur à Limété, où doit être la dent près de la statue de Lumumba, les choses ne sont pas encore prêtes. Et puis qu'il y a le Covid qui gêne. Bref, beaucoup d'organisations très compliquées. Politiquement, ça n'a pas l'air très simple, mais en tout cas, à la fois Kinshasa et Bruxelles ont l'air de vouloir faire du retour des reliques, de cette dent, donc, une véritable occasion, et peut-être une occasion de réconciliation, et c'est peut-être encore ça qui reste à négocier entre le gouvernement congolais et le gouvernement belge.
Mais cette restitution, elle va être symbolique, parce qu'on n'a pas la certitude absolue qu'il s'agit bien d'une dent de Patrice Lumumba.
Non, effectivement, mais a priori, on a des éléments concordants et peut-être que, et c'est là que la question de Tim est particulièrement intéressante, peut-être que dans les documents dont on ignore le contenu, dans les documents de la commission d'enquête parlementaire, on a des indications spécifiques plus, qui vont plus avant que les révélations qui ont été faites dans la presse au moment où on a retrouvé chez Gérard Souteux cette fameuse dent. Il avoue lui-même avoir participé à la dissolution des corps à l'acide, comme vous le disiez à l'instant.
Merci beaucoup Pierre Benazet pour ces explications. À très bientôt sur l'antenne de RFI. Tim, bonne journée à Kinshasa. On continue à parler de RDC où le 22 février 2021, il y a presque un an, l'ambassadeur d'Italie Luca Attanasio, son garde du corps italien et un chauffeur congolais du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, était tué au nord de Goma, près du parc des Virunga dans l'est de la RDC. Un kidnapping qui aurait mal tourné. Guy Cédric, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez d'Abidjan. En ligne avec nous, Pascal Moulégois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de RFI à Kinshasa. Guy Cédric, on vous écoute.
Oui Chantal. En RDC, les autorités ont annoncé des arrestations en lien avec le meurtre de l'ambassadeur d'Italie qui a eu lieu il y a un an aux abords du parc des Virunga. Voilà, je voudrais savoir... L'heure a-t-elle que 7 ans aujourd'hui des circonstances de ce drame et les personnes arrêtées appartiennent-elles à un groupe armé?
Alors Pascal Moulégois, est-ce que l'on sait exactement ce qui s'est passé ce 22 février 2021 près du parc des Virunga?
Oui Chantal, ce que l'on sait depuis plusieurs mois d'ailleurs est que le diplomate italien Luca Attanasio a perdu sa vie dans une opération de rapt, de kidnapping qui a mal tourné. Cette version a été confirmée par les présumés membres du gang des ravisseurs arrêtés par la police congolaise à Goma au Nord Kivu. Donc ce jour-là, le 22 février 2021, l'ambassadeur Luca Attanasio se trouve à Goma, toujours accompagné de son garde du corps, un carabinier italien. Alors les diplomates devraient se rendre dans une localité du territoire de Rutshuru, toujours dans les périmètres du parc des Virunga, parce qu'il faut bien comprendre que c'est vaste. Alors ce n'était pas pour du tourisme, mais c'était pour évaluer un projet des cantines scolaires mis au point par le Programme Alimentaire Mondial, une agence des Nations Unies qui est basée à Rome, donc en Italie. Alors l'ambassadeur quitte Goma à bord d'un 4x4 du PAM. La zone, selon les Nations Unies, en fait, sur leur carte sécuritaire, en fait, c'est une zone qui est clean, en jaune donc, la voiture quitte Goma, mais elle était surveillée souvent, et souvent ce sont des motocyclistes qui jouent ces rôles dans les mobiles de kidnapping. Alors, au nord de la ville, dans les territoires de Nyiragongo, aux abords du parc, le véhicule est pris dans une embuscade. Ça, c'est la version de la police, en fait, qui se base sur les aveux des présumés assaillants. Alors, le véhicule est stoppé par des tirs, aucune résistance, les assaillants kidnappent les deux Italiens et le chauffeur du PAM. Ils sont alors amenés loin de la route. Mais d'après la version des membres du gang, l'un des otages aurait tenté de s'échapper, ce qui a poussé un assaillant à appuyer sur sa gâchette 3 morts sur place, selon la police, toujours, qui se base sur des aveux des assaillants. Les malfaiteurs ont beaucoup regretté, car ils avaient l'intention de kidnapper les diplomates et de demander $1 million pour sa libération, donc pour la rançon. Alors, ils se sont disputés, les assaillants entre eux se sont disputés après, et voilà donc une opération qui a mal tourné. Mais on ne peut pas aussi ignorer la version de l'épouse du diplomate après les funérailles de son mari. On se rappelle bien que la veuve Zekia Sadiki, c'est une Marocaine, elle s'était confiée à un magazine italien, et pour elle, son mari Luca Antanasio a été trahi par une personne proche de la famille. Quelqu'un qui connaissait ses déplacements a parlé, l'a vendu et l'a trahi. Fin de citation.
Alors les personnes arrêtées appartiennent-elles à un groupe armé, Pascal Molégois?
Ça, nous ne pouvons pas l'affirmer pour le moment. Il est vrai que les groupes armés comme les FDLR opèrent dans la région, mais cette rébellion rwandaise avait assuré n'être liée ni de près ni de loin dans ce meurtre. Alors pour les FDLR, la zone est plutôt sous influence de l'armée rwandaise, mais les personnes interpellées par la police ne font pas partie en fait d'un groupe armé. Hein. Elles sont par contre membres d'un réseau de criminels, un gang bien organisé. Vous savez, les raptes sont monnaie courante dans la région du Kivu. Des humanitaires ou toute autre personne sont la cible de ces bandes, souvent qui bénéficient des complicités au sein des forces de sécurité congolaises même.
Merci Pascal Molégois pour ces précisions. Guy Cédric, j'espère que votre curiosité est satisfaite. Bonne journée à Abidjan. À 2 semaines des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, les députés français ont frappé fort jeudi dernier. À la quasi-unanimité, ils ont reconnu le caractère génocidaire des violences politiques systématiques et des crimes contre l'humanité perpétrés par la Chine contre les Ouïghours dans la région à majorité musulmane du Xinjiang. Félix, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'Abidjan. En ligne avec nous, Emmanuel Véron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur associé à l'INALCO et à l'École navale, co-auteur de La Chine face au monde, une puissance résistible, paru aux éditions Capimuscat en 2021. Félix, on vous écoute.
Oui, vu l'introduction que vous avez faite tout à l'heure sur la Chine, j'aimerais savoir quelle peut être la portée de cette résolution et aussi savoir si elle peut mettre à mal les relations entre la Chine et la France. Et enfin,
oui, terminé,
peut-on s'attendre à des représailles économiques de la part de la Chine?
Alors, Emmanuel Véron, d'abord, quelle est la portée, quelle peut être la portée de cette résolution?
Oui, je crois qu'il est important de rappeler le travail des parlementaires depuis maintenant plus d'un an sur cette résolution qui a été votée à la quasi-unanimité, 169 voix contre une. D'ailleurs, le vote est public et on voit le nombre de députés qui ont pu signer pour ou contre. C'est la portée, est évidemment dans un travail de fond fait par un réseau de parlementaires des démocraties libérales, occidentales, mais pas uniquement. On en retrouve aussi en Asie. La portée est celle de sensibiliser l'opinion par rapport aux politiques intérieures de répression contre les minorités nationales ouïghours, qui sont structurelles, particulièrement virulentes, et qui sont inscrites dans la durée et dans le temps long.
Mais est-ce que ce vote historique du Parlement va influer sur la politique étrangère de la France?
Ce qui est intéressant de resituer, c'est que c'est un travail de Parlement, Sénat et Assemblée pour la France, comme je le disais dans d'autres démocraties libérales, mais que le gouvernement, lui, ne reconnaît pas. Donc on a une décorrélation dans le vocabulaire mobilisé. Seuls les États-Unis, au niveau du gouvernement, utilisent le terme de génocide par rapport aux autres pays démocratie libérale qui ont voté cette résolution.
Emmanuel Véron, Pékin a réagi à la résolution du Parlement français en dénonçant, je cite, une diffamation et une stigmatisation délibérée contre la Chine et une ingérence brutale dans les affaires intérieures chinoises. Est-ce que Pékin peut aller plus loin que ce communiqué classique et sans surprise?
Et donc ce communiqué, effectivement, sans grande surprise, maintenant est une sorte de réflexe dont l'appareil institutionnel a l'habitude. Probablement qu'il peut y avoir des sanctions ou en tout cas des représailles sur les parlementaires eux-mêmes, mais qui ont déjà cours en fait, sur interdiction de voyage, dénigrement, campagne de dénigrement public, etc., qui sont en fait dans l'ordre d'une forme de diffamation. Probablement, il faut rester attentif, qu'il peut y avoir des formes d'aigus, de s'en prendre à l'un ou l'autre en fonction des épisodes politiques à la veille des Jeux Olympiques à Pékin.
Et quand la Chine invoque la lutte contre le terrorisme, la radicalisation et le séparatisme pour justifier sa politique au Xinjiang, c'est un alibi, un prétexte?
Ça a toujours été un élément politique intérieur du Parti communiste chinois pour légitimer la sinisation du Xinjiang et la répression des Ouïghours. Les faits de terrorisme sont bien réels. En revanche, la décorrélation qu'il y a entre le terrorisme pur et la minorité en tant que telle est quelque chose qui est complètement artificialisé.
Merci beaucoup Emmanuel Véron d'avoir répondu à nos questions. Félix, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à tous les deux. On va terminer cette première partie d'appel sur l'actualité avec la CAN 2022 et l'énorme surprise du premier tour, l'élimination de l'Algérie. Les Fennecs étaient pourtant donnés grands favoris de la compétition. Le sélectionneur algérien Jamel Belmadi a reconnu sans détour un échec. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de l'Abbé en Guinée. En ligne avec nous, le consultant football de RFI pour la CAN, Joseph-Antoine Bell, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Abdoulaye, on vous écoute.
Merci Chantal. L'Algérie a été éliminée au premier tour de la CAN alors qu'elle était tenante du titre et qu'elle restait sur une série de 35 matchs sans défaite.
Oui, alors quelle est votre question, Abdoulaye?
Ma question est la suivante, Chantal.
Qu'est-ce qui a manqué à l'Algérie hein, pour aller en huitième de finale? C'est ce que vous vouliez savoir, Abdoulaye. Joseph-Antoine Bell, qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer ce fiasco de l'Algérie à la CAN?
Mais je pense que l'Algérie a concentré deux choses. Premièrement, un certain complexe. Et deuxièmement, une tendance à être des pleurnichards, à critiquer et à se focaliser sur ce qui ne leur plaisait pas. Il faisait trop chaud, il faisait trop humide, il y avait trop de vent, il y avait trop de sorciers dans la forêt, il n'y avait pas assez de... Le gazon n'était pas assez bon, les femmes ne leur plaisaient pas, le public ne les aimait pas, ils se plaignaient de tout, sauf de leur jeu. Il a fallu qu'ils soient éliminés pour qu'ils reconnaissent que c'est un fiasco.
Donc ils ont payé aussi un excès de confiance, on peut dire ça.
Ils ont payé un excès de confiance. Quand je parle de complexe de supériorité, voilà, vous savez, quand vous critiquez les autres tout le temps, ça veut dire que vous êtes meilleur en tout. Donc vous ne vous regardez pas. Mais un champion, en réalité, un champion ne regarde pas à côté. Un champion est focalisé sur sa victoire et qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner. Un champion ne se trouve pas d'excuses à l'avance.
Alors, les Verts n'ont inscrit qu'un seul but en trois matchs. Est-ce que l'attaque est la première responsable de cette déroute?
Ah non, une équipe est une équipe, c'est pour ça qu'on appelle équipe. Quand vous prenez des buts, c'est que tout le monde est fautif. Et quand vous vous en marquez, c'est que tout le monde joue bien. Vous savez, pour marquer des buts, il faut recevoir les ballons. Et généralement, les ballons vous viennent de l'arrière. Donc, si de bons ballons arrivent de l'arrière, vous avez plus de chances de créer des occasions de but. Et plus vous créez d'occasions de but, plus vous aurez des chances de marquer. De la même manière, pour défendre, les ballons vous viennent de devant, c'est-à-dire de l'arrière des autres. Et si vos attaquants commencent à défendre, peu de ballons arriveront sur votre défense et ils n'arriveront pas toujours dans de bonnes conditions. Et donc, ça facilite le travail de ceux qu'on appelle les défenseurs.
Alors, Joseph-Antoine Bell, quelles sont désormais les équipes favorites pour la suite du tournoi? C'est ce que Abdoulaye voulait savoir. La ligne est très, très mauvaise avec lui, donc je vous pose la question à sa place.
Mais avec ce que nous avons déjà vu, je crois qu'il n'est pas prudent de citer...
De faire des pronostics.
des favoris. Regardez le Nigeria qui a fait fort en gagnant ses trois premiers matchs, en impressionnant tout le monde, est sorti. La Gambie, qu'on n'attendait pas, est là. Les Comores sont là. La Tunisie s'est réveillée. Donc je crois qu'il va falloir que tout le monde fasse attention. Évidemment, on pense que par exemple le Cameroun est favori contre les Comores, mais ça va être sur un match. Ensuite, maintenant, le prochain adversaire ne sera plus comorien, même si les Comores seraient éliminés. Donc je crois que oui, on pense au Maroc, on pense au Cameroun, on pense désormais à cette Tunisie qui a bien joué.
Merci beaucoup.